Bon ben rebonjour, donc me revoilà pour vous reparler à nouveau de Nietzsche et de la tragédie. Donc je m'étais arrêté à la fin du fichier précédent à la figure de Schopenhauer. Donc je vous avais expliqué pour l'instant que dans un premier temps, l'interprétation que Nietzsche donne de la tragédie, incluant Apollon et Dionysos, est une interprétation qui s'oppose à toute une famille classique dans laquelle apparaissent des figures comme Winckelmann, Goethe, Schiller et même Hegel. Et donc l'idée c'est de dire que cette famille classique a une fâcheuse tendance, du point de vue de Nietzsche, à interpréter la tragédie à travers une grille de lecture chrétienne, en projetant dans la tragédie le concept de faute, qui est un concept chrétien, le concept de faute, le concept de châtiment. On a tendance, enfin, c'est toute une histoire, ça, c'est toute une histoire très très longue qui est une histoire qui est l'histoire de la façon dont la tragédie antique a été transmise aux périodes ultérieures. Et c'est toute une histoire qui est une histoire qui est l'histoire d'une transmission qui tend à dénaturer la tragédie, parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que la tragédie a été vue par beaucoup d'auteurs chrétiens, par Augustin par exemple et d'autres, comme d'une certaine façon un rite sacrificiel païen qui était d'une certaine façon quelque chose qui incarnait le paganisme du monde grec, et donc ils ont eu tendance à rapprocher ce rite sacrificiel qui est selon eux la tragédie grecque du rite sacrificiel qui est le rite du bouc émissaire dans la religion juive, et ils ont eu tendance à mettre dans le même sac, si on peut dire ça comme ça, hellénisme et judaïsme, et d'une certaine façon à affirmer qu'il n'y avait qu'une religion qui avait la clé de ce qu'était le sacrifice, et le sacrifice c'était le sacrifice du Christ qui meurt sur la croix pour expier le péché originel, etc. Donc on a toute une transmission un peu étrange comme ça de la tragédie dans l'histoire occidentale, et d'une certaine façon ce qu'explique Nietzsche ici, c'est que des figures comme Winckelmann, comme Goethe, comme Schiller, et même comme Hegel, sont d'une certaine façon l'aboutissement de toute une tradition qui est une tradition de prise en charge par le christianisme de cette histoire de la tragédie grecque, mais qui a reconduit de génération en génération la même fâcheuse tendance à projeter dans la tragédie le concept de faute. Le concept de faute, c'est quelque chose de proprement chrétien. C'est un peu quelque chose qui apparaît dans la religion chrétienne, et c'est ce que va raconter Nietzsche dans d'autres textes. C'est quelque chose qui apparaît dans la religion chrétienne avec Paul qui est un peu celui qui a construit le christianisme en tant que christianisme. C'est des thèmes qu'on va voir quand on va parler de d'autres livres de Nietzsche. Et Nietzsche explique, lui, que d'une certaine façon le Christ était une sorte de Bouddha, et que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a construit le christianisme et qui d'une certaine façon a mis la question de la faute et du péché originel au centre. Et donc voilà, il y a une sorte de déconstruction du christianisme chez Nietzsche, comme il y a une déconstruction de la morale, comme il y a une, voilà, c'est c'est compliqué. On reverra ça dans d'autres séances. Mais disons que là, pour l'instant, ce qui est important, c'est de voir que cette première interprétation de la tragédie donc de Winckelmann, Goethe, Schiller et Hegel est identifiée par Nietzsche comme une lecture chrétienne mettant au centre de la tragédie un concept qui lui est étranger, qui est le concept de faute. Donc voilà, et à la fin de l'enregistrement précédent, est-ce qu'un enregistrement vaut pour une séance? C'est très bizarre, je ne sais pas. Mais en attendant, à la fin de l'enregistrement précédent, donc je vous parlais de Schopenhauer et de la façon dont Nietzsche s'opposait non seulement à cette famille classique de gens que je viens d'évoquer, mais aussi à une autre figure qui, elle, est plutôt une figure romantique, qui est la figure de Schopenhauer. Et en fait, l'idée de Nietzsche, c'est aussi de s'opposer à l'interprétation de la tragédie qu'a donnée Schopenhauer. Et Schopenhauer, c'est quelqu'un, donc je vous disais rapidement en fin d'enregistrement, qui avait donc une conception un peu particulière de la tragédie, qui expliquait que la tragédie, elle représentait la volonté luttant avec elle-même dans toute l'épouvante d'un pareil conflit. C'est-à-dire que la volonté luttant avec elle-même, c'est très curieux, parce que la volonté luttant avec elle-même, c'est-à-dire que la volonté chez Schopenhauer, comme je vous ai dit vaguement dans l'autre enregistrement, la volonté chez Schopenhauer, c'est une sorte de principe hérité des pensées de l'Inde, dont on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut, on sait juste qu'un autre nom de cette volonté, c'est le vouloir vivre. Et la seule chose qu'il veut, c'est continuer à vivre. Et le fait est que ce principe, la volonté, il ne vit qu'à travers les vivants. Et donc, il s'individualise. Il s'individualise dans chaque être vivant. La volonté est vivante, mais chaque être vivant est mortel. Et donc, la volonté pousse aussi les êtres vivants à vouloir vivre et pousse donc les êtres vivants à se reproduire et à donner une sorte d'assurer une sorte de continuité à la vie comme ça à travers la continuité des générations. Et en fait, la tragédie chez Schopenhauer, donc il dit ça donc dans le monde comme volonté et comme représentation. Il dit quelle est donc la véritable signification de la tragédie? C'est que le héros n'expie pas ses péchés individuels, mais le péché originel, c'est-à-dire le crime de l'existence elle-même. Vous voyez, c'est très étrange cette histoire. Et je vous disais, toujours à la fin de l'enregistrement précédent, que Schopenhauer citait ici Calderon, qui dit « Car le plus grand crime de l'homme, c'est d'être né ». Et donc la tragédie de la vie, c'est comme ça qu'il faut le dire. La tragédie de la vie chez Schopenhauer, c'est que la vie est mortelle et donc l'idée c'est que il faut toujours trouver comment faire face à cette idée que la vie est mortelle. Donc il faut toujours reproduire la vie, etc. Donc on a chez Schopenhauer une philosophie de la tragédie qui repose sur une philosophie de la vie qui est une philosophie pessimiste. Hein, c'est un peu avec cette étiquette de pessimiste que Schopenhauer avance un peu dans l'histoire de la philosophie, mais son pessimisme c'est pas un pessimisme qui consiste à dire tout va mal tourner, voilà. Le pessimisme de Schopenhauer, c'est surtout un pessimisme qui explique que vivre, c'est juste une tragédie, c'est juste une catastrophe. Et c'est ça le sens du pessimisme de Schopenhauer. Et en fait, Schopenhauer, il est un peu, d'une certaine façon, le fils de son temps, c'est-à-dire que il est un peu quelqu'un qui est pris dans une sorte d'idéologie comme ça, tout va mal finir. Il est contemporain, par exemple, de ces histoires de l'entropie, hein, l'entropie, la négantropie, le fait que tout système finit par courir à sa perte, enfin, ce genre de choses. On est dans une période, la période sur le fond de laquelle Nietzsche apparaît, qui est une période finalement qui est une période fondamentalement pessimiste. Le visage du nihilisme à l'époque de Schopenhauer, c'est le pessimisme. Le nihilisme de Schopenhauer, bah, c'est de dire, bah, comme quand il cite Calderon, le péché originel, c'est le crime de l'existence elle-même. C'est voilà, c'est un pessimisme assez, enfin un nihilisme qui prend l'allure d'un pessimisme et qui nous dit que finalement la vie n'a aucune valeur, hein, qui dit que le voilà que la à la limite c'est vous il y a toute une tradition qui sort de là, hein, vous avez toute la tradition existentialiste qui vous dit bah moi j'ai pas demandé à naître, ce genre de truc, et vous trouvez ça chez Sartre, et vous avez toute une littérature comme ça. Je sais pas si vous connaissez Cioran, Émile Cioran, Cioran, c'est un auteur roumain qui est un styliste magnifique, mais qui est juste désespérant, qui écrit des livres comme par exemple « De l'inconvénient d'être né ». Et voilà, « De l'inconvénient d'être né », on est tout à fait dans ce pessimisme-là. Là, il y a toute une tradition comme ça qui, disons, qui a tendance à dire... Alors c'est pour ça que je vous disais que Schopenhauer, il avait une dimension romantique. Il y a toute une tradition comme ça qui consiste à dire bah, finalement la vie ça a aucun sens, la vie c'est absurde. Voilà, c'est toute cette tradition là qui prend forme théoriquement dans Schopenhauer et qui va donner ensuite toute une tradition qui va passer par Sartre, par Cioran, tout ça. Et donc c'est toute une tradition qui va nous expliquer que la vie ça sert à rien, que la vie c'est absurde et ce genre de choses. Et c'est aussi contre ça que Nietzsche va s'élever. C'est-à-dire que il va refuser de considérer que le tragique de l'existence c'est ça, hein, que le tragique de l'existence c'est qu'on n'a jamais demandé à être né, que la vie n'a aucun sens, etc. C'est contre ça aussi que s'oppose Nietzsche. C'est à ça aussi que s'oppose Nietzsche. Et du coup, quand il parle de Dionysos, quand il parle de l'ivresse dionysiaque par la musique, par le rythme, par la danse, ben c'est au contraire de quoi il nous parle. Ben il nous parle du contraire du pessimisme. Il nous parle d'une sorte d'affirmation joyeuse de la vie et absolument pas de sentiment de l'absurde et de ce genre de truc. Hein, donc pour Nietzsche, la tragédie c'est une fête enthousiasmante, et en fait si les gens ont tendance à dire, comme je disais à la fin du fichier précédent, comme les gens ont tendance à dire que de toute catastrophe qui arrive, ah, c'est une tragédie, ben, c'est parce qu'ils savent plus ce que c'est qu'une véritable tragédie. Parce qu'une véritable tragédie, selon Nietzsche, c'est quelque chose qui est plutôt quelque chose de joyeux. C'est-à-dire que la tragédie, pour Nietzsche, c'est un peu la représentation symbolique de toute création, parce que dans toute création, il y a un moment un moment apollinien qui donne une forme, et vous avez un moment dionysien qui détruit la forme pour laisser la place à une invention nouvelle. Et l'idée, c'est que toute création de valeurs nouvelles, elle suppose une destruction préalable qui va permettre encore de créer d'autres valeurs, qui va permettre à nouveau une destruction, qui va permettre, etc. Et c'est la vie. Ça se passe comme ça. Et vous pouvez regarder, par exemple, je vous cite juste une phrase comme ça, c'est la généalogie de la morale, le deuxième traité, le paragraphe 24, et Nietzsche dit « Pour pouvoir ériger un sanctuaire, il faut briser un sanctuaire. » Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a, pour pouvoir construire, il faut d'abord détruire. Et ensuite, une fois qu'on a construit, ben, il faut à nouveau détruire. Et ensuite, une fois qu'on a construit, il faut à nouveau détruire. Et voilà, et ça donne la vie, quoi. Et la tragédie, elle montre donc de part et d'autre de la catastrophe qui fait suite à l'acte qui est au centre de la tragédie, l'acte que la tragédie accomplit en son centre. Donc, en fait, la tragédie, elle montre la fin de l'ancien monde et la naissance d'un nouveau monde. Ce que montre une tragédie, c'est toujours ça. Il y a une sorte de lecture un peu structurale comme ça de la tragédie par Nietzsche qui dit que finalement dans toute tragédie vous avez structurellement un moment de destruction, un moment de création, enfin un moment de création, un moment de destruction, puis et voilà, et qui va laisser la place nette pour pouvoir à nouveau construire. Hein, donc c'est l'idée de Nietzsche, c'est ça, c'est que le caractère dionysien du tragique, eh bien en fait il justifie selon Nietzsche la souffrance d'une certaine façon, parce que la souffrance c'est la condition de toute création véritable. Et en fait on retrouve un peu cette histoire, l'histoire d'un enfantement dont la douleur d'une certaine façon. Hein, voilà ce que dit Nietzsche. C'est peut-être une comparaison pas très heureuse, mais disons que ce que dit Nietzsche, voilà, c'est la chose suivante. Il dit, ça c'est dans les considérations intempestives, c'est dans la partie qui s'appelle « Ce que je dois aux anciens », paragraphe 4, il dit « pour qu'il y ait la joie éternelle de la création, pour que la volonté de vie s'affirme éternellement par elle-même, il faut aussi qu'il y ait les douleurs de l'enfantement ». Donc voilà, je trouve que c'est mis entre guillemets les douleurs de l'enfantement, et Nietzsche sent bien que ce truc est un peu bizarre. Donc voilà, il dit « pour qu'il y ait la joie éternelle de la création, pour que la volonté de vie s'affirme éternellement par elle-même, il faut aussi qu'il y ait les douleurs de l'enfantement ». Et il dit « le mot Dionysos signifie tout cela ». Donc voilà, vous voyez, Dionysos, on n'est pas du tout dans l'idée que Dionysos, c'est le dieu de Dionysos, tout ça. C'est un mot, Dionysos, et c'est un mot qui dit beaucoup de choses. Il dit ça, par exemple, il dit que que pour qu'il y ait de la création, il faut qu'il y ait de la destruction. C'est un mot qui dit aussi des choses relativement au christianisme. Donc voilà, vous voyez, ce qui est, interpréter Nietzsche, ça va être essayer de trouver tout ce qui se cache derrière ce mot de Dionysos. Elle est très belle, cette phrase, hein, le mot Dionysos signifie tout cela. Il signifie tout cela, puis encore bien d'autres choses. Donc voilà. Donc alors, la tragédie, ce qu'elle montre, grosso modo, c'est que la vie, pour être exaltée, elle ne doit pas être préservée, mais elle doit au contraire être exposée. Hein, c'est d'une certaine façon la plus haute tension que c'est au point que de la plus haute tension que l'héroïsme du surhumain, c'est de la plus haute tension de l'héroïsme du surhumain que l'humain apparaît dans toute sa grandeur, quoi. Hein, donc la philosophie de Schopenhauer, elle est un peu. Nietzsche a été vraiment un lecteur enthousiaste de Schopenhauer dans sa première jeunesse. C'est de là qu'il vient philosophiquement, hein, de toute façon. Mais en même temps, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que il faut pas toujours penser que les questions d'influence, ça revient à dire, j'approuve tout ce que celui qui m'a influencé dit et je le reprends. Les questions d'influence, c'est aussi des questions de réaction. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi des questions dans lesquelles on se détourne des gens qui vous ont influencé. Hein, l'important, c'est que les gens aient eu un impact important sur vous. Mais ça peut être un impact qui fait que vous avez envie d'aller dans le même sens. Mais ça peut être un impact aussi qui fait que vous avez envie de vous détourner complètement. La relation Nietzsche-Schopenhauer, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui a été très important pour Schopenhauer, c'est quelqu'un qui a été très important pour Nietzsche à un moment, et c'est quelqu'un qui a été une sorte d'épouvantail pour Nietzsche ensuite. C'est-à-dire qu'il représentait un peu la figure contemporaine du nihilisme qui était le pessimisme, hein, donc et la philosophie de Schopenhauer, donc pour lui, elle exprime le dégoût de la vie, elle exprime le sentiment d'un caractère absurde de la vie, Et du coup, c'est une philosophie qui fait grand cas d'un sentiment qui est la pitié, un sentiment que Nietzsche va pas du tout trouver sympathique, qu'il va travailler à déconstruire. Et la pitié, elle va apaiser la volonté par sympathie envers la souffrance qui se présente à elle. Et donc, du coup, Schopenhauer, il va faire une sorte d'éloge de la pitié. Il va faire une sorte d'éloge de la pitié. Il va s'inscrire dans une famille aussi qui fait l'éloge de la pitié, dans une famille à laquelle appartient Rousseau. Et ça, voilà, tout ça, c'est compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est de dire que chez Nietzsche, vous passez ailleurs. Vous passez dans l'idée que la vie n'est pas quelque chose d'absurde, que la vie n'est pas quelque chose de tragique, mais alors, en tout cas au sens de Schopenhauer, n'est pas quelque chose qui n'a aucun sens et quelque chose qui ne peut que favoriser d'une certaine façon le sentiment de la pitié, parce que le tragique chez Schopenhauer, il va être associé à ce sentiment de la pitié. Et donc voilà, je finis là-dessus sur cette histoire du rapport de Nietzsche à Schopenhauer. Donc voilà, on a l'idée que chez Nietzsche, on n'a pas du tout la même conception de la vie. Chez Schopenhauer, vous avez l'idée que la vie est absurde, vous avez l'idée que la vie est absurde, la vie n'a pas de sens, et c'est ça qui est tragique. Et chez Nietzsche, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, quoi. Et ça ne doit pas. Donc l'idée de Schopenhauer, c'est que la vie n'a pas de sens, la vie est tragique, et que du coup, ça éveille un sentiment de pitié. Et la pitié a quelque chose à voir avec le tragique. Et donc, vous voyez, on retrouve, avec cette histoire de pitié, on retrouve encore l'univers chrétien de Winckelmann, de Schiller, de Goethe et de Hegel. Là, on retourne dans cette affaire, non pas par l'intermédiaire de la faute, mais par l'intermédiaire de la pitié. Donc, Nietzsche, il sort des trucs à propos de la pitié, des choses du genre, ça c'est dans Par-delà le bien et le mal, paragraphe 225, il dit « Comprenez-vous que votre pitié, à vous, s'adresse à la créature dans l'homme, à ce qui doit être pétri, brisé, forgé, buriné, brûlé, fondu, purifié de ses scories, à tout ce qui nécessairement souffrira et doit souffrir. » Donc voilà, l'idée, ça c'est un peu le côté aussi, c'est un côté qu'on a beaucoup caricaturé chez Nietzsche, c'est le côté tout ce qui ne me brise pas me rend fort, etc., tout ce côté-là. C'est un peu étrange, il y a réellement, de fait, une sorte d'héroïsme nietzschéen, mais c'est compliqué. Je dis ça pour l'instant, héroïsme nietzschéen. On aura l'occasion de déconstruire ça aussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui déconstruit. En fait, Nietzsche, c'est un peu une sorte de, j'allais dire, l'inventeur de la déconstruction. C'est pas l'inventeur de la déconstruction. Il y a d'autres gens qui ont fait ça avant lui. Mais en tout cas, c'est une sorte de déconstructeur assez systématique de beaucoup de valeurs. Donc voilà, pour boucler sur Nietzsche et Schopenhauer, donc chez Schopenhauer, vous avez l'idée que la vie est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est absurde, quelque chose qui a priori éveille la pitié, et Nietzsche, au contraire, est quelqu'un qui vous dit, mais cette histoire d'absurde, ça n'a aucun sens. La vie, elle est toujours, elle se présente toujours comme un moment de construction, suivi d'un moment de destruction, suivi d'un moment de construction, suivi d'un moment de destruction, et il n'y a pas de pitié à avoir par rapport à ça. C'est juste, on a une sorte d'éternel retour comme ça de la construction et de la destruction, et les choses fonctionnent comme ça. C'est la vie, c'est comme ça, et ça doit pas éveiller la moindre pitié. Hein, c'est voilà, et donc voilà ce qui, comme il dit à la fin de la phrase de parle de bien et mal que je viens de vous citer, ce qui doit souffrir souffrira, et ça fait partie de la vie, quoi. Et du coup, voilà l'idée de s'arrêter sur le moment de la souffrance et donc d'avoir pitié chez Schopenhauer, c'est aux yeux de Nietzsche une valeur purement chrétienne, quoi. Et donc voilà, donc là on a vu, après avoir vu dans l'enregistrement précédent, la dimension, l'opposition de Nietzsche à cette famille classique de Winckelmann, Goethe, Schiller et Hegel. On a vu là maintenant donc cette opposition à cette figure romantique qui est Schopenhauer, et on voit que donc voilà, dans les deux cas, Nietzsche oppose. Alors, vous voyez, ça se joue pas sur le plan de la philologie. C'est aussi pour ça que d'une certaine façon les objections de Wilamowitz, Mollendorf, ok, c'est moi je suis, il est dans son rôle de philologue, il n'y a pas de problème, mais en même temps, voilà, c'est pas forcément sur ce terrain-là que Nietzsche avance, hein, et donc voilà, donc nous on va considérer qu'il avance sur un terrain qui est plus un terrain philosophique. Et du coup, ben voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette philosophie de Nietzschéenne de la tragédie? Ben en fait, c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, c'est une philosophie de la vie, c'est une métaphysique de la vie, c'est une métaphysique de la vie qui du coup s'oppose fondamentalement, frontalement au pessimisme de Schopenhauer. Hein, Schopenhauer qui nous dit bah, la vie elle est absurde, elle n'a pas de sens, et Nietzsche dit mais si, la vie c'est la vie, elle a un sens, qui passe par elle progresse, le sens de la vie c'est qu'elle progresse en construisant puis en détruisant, puis en construisant, puis en détruisant. Donc elle a un sens, et ce sens, même s'il a, ce sens peut paraître bizarre, il a l'air de fonctionner de façon circulaire, mais vous allez voir que la question de la circularité, de l'éternel retour, est une question nietzschéenne aussi. Et donc l'idée de Nietzsche, c'est, sur ce plan de la philosophie de la vie, c'est de réfuter frontalement donc le pessimisme schopenhauerien. Donc les anciens, les Grecs par exemple, avaient plus intensément que nous, enfin ils vivaient plus intensément que nous, et ils n'étaient pas pris dans un univers dans lequel vous avez la division du travail et la division du travail et l'organisation du temps et ce genre de choses. Nietzsche, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui va aussi, il va aussi parler beaucoup de Darwin, mais d'une certaine façon il a quelque chose de d'anti-darwinien, parce que Darwin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la vie s'adapte à son milieu, et que c'est en s'adaptant à son milieu qu'elle peut se développer. Et ce que va dire Nietzsche, c'est d'une certaine façon que c'est pas parce qu'elle est adaptée à son milieu que la vie se développe et s'affirme, mais c'est au contraire parce qu'elle transgresse les règles de ce milieu. Et c'est pas la sécurité, le confort, le conformisme qui est favorable à l'épanouissement de la vie, mais c'est au contraire le danger, le risque et l'aventure. Et donc ça, on retrouve le côté un peu héroïque de la philosophie de Nietzsche. Et donc du coup, l'épargne qui caractérise la vie, mais c'est au contraire le gaspillage et l'excès. Hein, donc là, on retrouve des choses qui vont après émerger chez d'autres gens qui seront aussi des lecteurs de Nietzsche, comme Georges Bataille, sur cette histoire du potlatch et de l'excès, de la dépense, etc. Donc là, ce que dit Nietzsche, par exemple, c'est dans le Gai Savoir, au paragraphe 349, il dit « Ce qui règne dans la nature, ce n'est pas la disette, l'étroitesse, c'est l'excès, le gaspillage, une folie de gaspillage. La lutte pour la vie n'y est qu'une exception, une restriction momentanée du vouloir vivre. » Vous voyez, là, on a carrément Nietzsche contre Darwin. La lutte pour la vie n'y est qu'une exception, une restriction momentanée du vouloir vivre. Donc là, ce qu'il nous propose, c'est carrément une autre vision de la vie que la vision que propose son contemporain Darwin. Darwin, il vous explique que d'une certaine façon, la vie, c'est une vie de lutte, c'est une vie de lutte justement pour la vie. Et ce qu'explique Darwin, c'est que c'est l'essence même de la vie que d'être lutte. Et ce qu'explique ici Nietzsche, c'est que la lutte pour la vie n'est qu'une exception. C'est assez étonnant, ça aussi, de voir comment Nietzsche va, d'une certaine façon, affirmer, à travers cette question du tragique, une philosophie de la vie, au moment où une autre philosophie de la vie commence à se répandre, qui est la philosophie de Darwin, qui veut que la vie soit une lutte. Et là, la philosophie de la vie de Nietzsche, c'est une philosophie qui prétend que la vie n'est pas une lutte, mais que la vie est quelque chose qui est dans le gaspillage, dans l'excès. Donc vous voyez, on retrouve là cette inspiration grecque de la démesure, on retrouve là cette inspiration grecque du déséquilibre. Hein, on est dans une toute autre économie que chez Darwin. Oui. Et voilà, je retrouvais pas ma feuille, donc j'étais un peu perdu. Mais en fait, oui, l'idée, c'est que la crise tragique, hein, ce qui est au centre de la tragédie, mais la crise tragique qui met la vie en péril, hein, qui expose la vie à la mort, eh bien, elle exalte davantage la vie que la paix monotone, voilà, que lui proposent les gens qui lisent la tragédie en termes de mesure et d'équilibre. Et les Grecs, donc, pour Nietzsche, c'est des gens donc qui auront vécu plus intensément que les modernes. Les Grecs anciens, c'est des gens qui auront vécu plus intensément que les modernes. Et ils ont été, ils ont été vivants, peut-être plus vivants, peut-être plus que les modernes sont vivants. Et la fête dionysiaque de la tragédie, parce que c'est ça qu'est la tragédie pour Nietzsche, là, c'est une fête placée sous le signe de Dionysos. Donc la fête dionysiaque la fête dionysienne de la tragédie, elle témoigne encore de cette grande santé de la vie, qui est c'est-à-dire de la volonté de puissance, qui est celle des Grecs, et qui est capable d'une perpétuelle création de valeur, d'une invention toujours renouvelée. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on est dans une façon de vivre qui est une façon de vivre qui n'hésite pas à détruire pour à construire, mais en sachant que ce qu'elle construit va être détruit, et en sachant qu'on va ensuite reconstruire et qu'on va détruire et qu'on va construire et qu'on va détruire. Et donc c'est ça, cette façon d'être, cette grande santé des Grecs. Hein, ça c'est un thème nietzschéen, là, cette expression de grande santé, on va la retrouver plusieurs fois dans l'œuvre de Nietzsche. Hein. Vous avez une grande santé, vous aurez aussi la grande politique, vous aurez aussi le grand art, vous aurez beaucoup de choses qui seront nommées comme ça. Et ce seront justement ce seront des choses qui accepteront cette idée de la vie, qui est une vie qui se confronte sans cesse à la mort, une vie qui est là dans cette idée de je construis mais ça va être détruit, mais je vais reconstruire mais ça va être détruit, etc. On est dans cette idée, c'est ça la grande santé, c'est ça qui fait que les Grecs, d'une certaine façon, ont été peut-être plus vivants que ne le sont les modernes. Donc, et quand on dit les modernes, c'est bien sûr les chrétiens. Hein, c'est toujours ça l'affaire chez Nietzsche. Et donc Nietzsche, c'est le génie de Socrate qui est quelqu'un qui privilégie la négation au détriment de l'affirmation. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que c'est la figure de Socrate chez Nietzsche. C'est une figure hyper importante. Il y consacre plusieurs pages dans la naissance de la tragédie, puis il a écrit des choses ailleurs sur Socrate. Donc ça, c'est hyper important, cette figure de Socrate chez Nietzsche, parce que le Socrate de Nietzsche, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la négation, c'est plutôt quelqu'un qui nie, hein, c'est pas quelqu'un qui affirme. Et vous allez voir que la question de l'affirmation et de la négation chez Nietzsche, c'est hyper important. C'est-à-dire que la vie, elle est affirmation. Et en fait, tout ce qui est dans la négation, c'est ce qui est du côté du ressentiment, enfin ce genre de choses, quoi. Et Socrate, donc, il va être, d'une certaine façon, la première figure de la négation chez Sartre, chez Nietzsche. Il va incarner une figure qui pense en niant. Qui pense en niant et qui est d'une certaine façon une figure que Nietzsche va considérer comme étant responsable du tarissement de la source tragique. Et donc là, je vous lis une petite phrase qui est dans La naissance de la tragédie, au paragraphe 12. Et qu'est-ce que dit Nietzsche ? Ben, il dit « C'est en Socrate lui-même que nous reconnaissons l'adversaire de Dionysos. » Pour l'instant, je vous ai mentionné un adversaire de Dionysos, c'est le Christ, c'est le christianisme. Dans Ecce Homo, Nietzsche explique, il résume le conflit fondamental, c'est le Dionysos contre le crucifié. Mais en fait, avant le crucifié, avant le Christ, Dionysos a un autre adversaire, et cet adversaire, c'est Socrate. Et du coup, on est là en train de construire une interprétation de l'histoire assez étonnante, parce que d'une certaine façon, Nietzsche est en train de faire de Socrate une sorte d'ancêtre du christianisme. Donc voilà, ça c'est assez étonnant. Et alors Socrate, c'est la personne qui met fin à l'innocence de la fête tragique en inventant la conscience de soi. Qu'est-ce qu'il invente, Socrate? Il invente le fameux « connais-toi toi-même » qui met fin à l'ivresse dionysiaque. C'est-à-dire que dans l'ivresse, le sentiment du moi, il diffuse dans le monde. Et on est dans une sorte de moment de perte d'identité. Et là, le « connais-toi toi-même » de Socrate, il sonne un peu comme un rappel à l'ordre. Ça veut dire un peu, on a assez fait la fête et on arrête maintenant, on redescend. On descend de la démesure vers la mesure, on descend du déséquilibre vers l'équilibre. Et d'une certaine façon, Socrate, c'est une première figure comme ça, avant le christianisme, de retour au sérieux. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que la tragédie, qui est une sorte de fête dionysienne, doit prendre fin. Et que, voilà, il s'agit de redescendre, de descendre de la démesure vers la mesure, de descendre du déséquilibre vers l'équilibre. Et c'est pour ça que Nietzsche dit, voilà, je vous recite le paragraphe 12 de La naissance de la tragédie, c'est en Socrate lui-même que nous reconnaissons l'adversaire de Dionysos. Parce que comme le feront ensuite les chrétiens, donc il appelle justement à une forme de mesure, à une forme d'équilibre. Et en fait, donc voilà. Alors cette figure de Socrate, elle prépare donc le christianisme et le christianisme qui va incarner le divin en le spiritualisant dans l'intériorité et dans la réflexion. Donc l'absolu, avec le christianisme, il va désormais être dans le sanctuaire intérieur de la conscience de soi et non plus dans la splendeur phénoménale du monde. Le beau, ça ne va plus être le vrai. Et du coup, la vérité dionysienne du désir et de l'ivresse qui s'extériorise et qui sympathise avec le monde vont devenir quelque chose comme un péché et comme une maladie de l'âme. Et avec Socrate, c'est la vie elle-même qui est interprétation du monde et création de valeurs esthétiques nouvelles qui est une maladie. Avec Socrate, donc la vie elle-même va devenir une maladie. Et c'est comme ça qu'on va commencer à rentrer dans une logique qui va être celle du christianisme. Et quand l'idée que la vie c'est une maladie, c'est comme ça que Nietzsche interprète les derniers mots de Socrate dans le Phédon. Le Phédon, c'est un dialogue de Platon. C'est le dialogue dans lequel Socrate va, à la fin duquel Socrate va boire la ciguë et va donc accepter de mourir comme la cité d'Athènes le lui demande. Donc il va accepter de mourir. Et le dernier mot qu'il va avoir, c'est il va s'adresser à un autre personnage du dialogue qui s'appelle le Phédon, un personnage qui s'appelle Criton. Et il va demander à Criton de sacrifier un coq à Esculape. Et Nietzsche va parler de ça dans le Gai Savoir, dans le paragraphe 340, et il va dire, il va parler donc du dernier mot de Socrate dans le Phédon, dernier mot qui est Criton sacrifie un coq à Esculape. Esculape, c'est le dieu de la médecine. Et ce que dit Nietzsche dans le paragraphe 340 du Gai Savoir, c'est ce dernier mot ridicule et terrible, donc sacrifie un coq à Esculape. Donc ce dernier mot, ridicule et terrible, signifie pour qui sait entendre, Criton, la vie est une maladie. Est-ce possible, un homme tel que lui, un homme qui avait vécu joyeux et aux yeux de tous, comme un soldat, cet homme était un pessimiste. Donc vous voyez, on a comme ça des en fait c'est comme ça qu'on lit Nietzsche. C'est quand on voit comme ça des lignes se créer entre les textes. Donc là vous voyez, là il est en train de nous dire Socrate c'était un pessimiste. Et Socrate c'est un pessimiste et c'est un pessimiste parce qu'il explique que là, je vous relis le paragraphe 340, le passage du paragraphe 340 du Gai Savoir. Ce dernier mot, donc sacrifier un coq à Esculape, ce dernier mot ridicule et terrible signifie pour qui sait entendre, Criton, la vie est une maladie. Est-ce possible? Un homme tel que lui, un homme qui avait vécu joyeux et aux yeux de tous, comme un soldat, cet homme était un pessimiste. Et donc ce mot de pessimiste, voilà, on l'a vu à propos de Schopenhauer, on le voit à propos de Socrate. Et grosso modo, on a là toute une tradition qui se met en place de Schopenhauer. Enfin, de Socrate à Schopenhauer, en passant par le christianisme, et en passant par Winckelmann, en passant par Goethe, par Schiller, par Hegel, et toute cette tradition, d'une certaine façon, c'est une tradition qui, d'une certaine façon, regarde la vie comme une maladie, et ne regarde pas la vie comme une santé, comme une grande santé. Et c'est ça le combat dans lequel Nietzsche va s'embarquer. Le combat dans lequel Nietzsche va s'embarquer, c'est de défendre la vie comme une santé contre tous ceux qui pensent que la vie est une maladie. Et du coup, ceux qui pensent que la vie est une maladie, tous ces gens dont que je viens de vous nommer. Et du coup, voilà, l'exemple, l'étiquette qu'il va avoir tendance à coller sur le sac dans lequel il va mettre tous ces gens dont je vous ai parlé, ça va être l'étiquette du christianisme. Et du coup, c'est comme ça que le christianisme va mettre fin à la fête tragique. Parce que pour Nietzsche, une tragédie chrétienne, c'est quelque chose d'impossible. Des tragédies chrétiennes, il y en a eu plein. On a commencé par Racine, par exemple. Il y a des tas d'auteurs chrétiens qui ont écrit des tragédies. Mais pour Nietzsche, c'est juste une aberration. Pour Nietzsche, la tragédie, c'est extérieur au christianisme. Vous voyez, on est parti de cet ouvrage, La naissance de la tragédie. On avait l'impression au départ que c'était un ouvrage qui allait nous parler des tragédies grecques et tout, mais en fait c'est un ouvrage qui est une sorte de premier brûlot anti-chrétien de Nietzsche, hein, d'une certaine façon, parce que c'est quand même ça qui va être le fil conducteur de toute l'œuvre de Nietzsche. Hein, c'est le christianisme, il met fin à la fête fête tragique, et il met fin à la fête tragique en empoisonnant la source même de la tragédie. Parce que le christianisme, il va se refuser à considérer la tragédie comme une joyeuse création de valeurs, mais il va plutôt avoir tendance, et donc c'est ce que fait Augustin hein, dans les Confessions, dans le livre 3, il va avoir tendance à regarder le tragique comme une sorte de perversion de la pitié en haine, quelque chose comme ça, et en fait quelque chose qui ne sera jamais qui sera toujours mesuré par rapport à la passion du Christ et qui sera toujours alors déjà l'erreur c'est de considérer que la tragédie a quelque chose à voir avec un rituel, un rite sacrificiel. Ensuite, c'est d'essayer d'expliquer que le christianisme a le monopole du bon sacrifice avec la passion du Christ, alors que le sacrifice tel que le mettrait en scène, si c'était de ça qu'il s'agissait dans la tragédie grecque, n'aurait pas la même valeur et la même dimension que la passion du Christ. Donc voilà, on est dans une sorte d'opposition comme ça. Et donc on a une opposition comme ça qui se met en place chez Nietzsche entre le christianisme et la tragédie. La tragédie, elle accepte d'une certaine façon l'idée que la vie est création, destruction, création, destruction. On est dans une autre vision du monde. Pour le christianisme, la tragédie, elle est regardée comme une cruauté et pas comme une création. Elle est regardée comme une négation et pas comme une affirmation. Elle est regardée comme un ressentiment et pas comme une libération. Et en fait, pour Nietzsche, c'est exactement le contraire. Nietzsche, c'est le crucifié contre Dionysos, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on a avancé encore par rapport à la séance précédente, par rapport à l'enregistrement précédent. Et donc je reprendrai là mercredi, si les choses tournent de telle façon qu'on a cours mercredi. Et sinon, je vous ferai la suite sur un autre fichier. Et comme ça, on aura une sorte de continuité comme ça de cours sur Nietzsche. Je vous dis à mercredi. Au revoir.